France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Une moitié de biscuit, matin et soir, trempé dans un doigt de lait.
L'appellation biscuit vient du fait, effectivement, que le biscuit était cuit deux fois, mais ça date de l'Antiquité. C'était à une époque où on faisait des produits de très longue conservation.
Donc la navette, c'est un biscuit. Qui dit biscuit, dit plutôt croustillant. Quand elle sort du four, elle est encore moelleuse, et puis elle va perdre sa souplesse en refroidissant, elle va devenir plus biscuitée.
Un appareil à langue de chat dedans, ce sont des blancs d'œufs, du sucre glace, de la farine et du beurre en pommade. Donc ça va être une cuisson très rapide.
J'aimerais autant que vous passiez de biscuit.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster la navette de Marseille, le sablé breton, le biscuit rose de Reims, le croquant aux amandes de Provence. À eux seuls, les biscuits racontent l'histoire et la géographie de France. Seulement voilà, qu'ont-ils en commun pour qu'on les appelle biscuits? Des ingrédients? Une texture? Une origine, une technique de cuisson. On va essayer d'y voir plus clair sur ces douceurs miniatures avec nos deux invités du jour. Un invité pour nous raconter l'aventure, l'origine des biscuits, c'est Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historien de la bande dont va déguster Loïc, historien à l'IEHCA, l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, qui dépend de l'Université de Tours. Encore une fois, vous avez planché sur un sujet touffu et complexe.
C'était peut-être pas du gâteau, je dois l'avouer. Ah oui, j'attaque fort.
Elle est bonne.
Mais en effet, un sujet complexe dans le sens où, puisqu'on parlait de technique, il n'est pas toujours simple de reconstituer, de cerner l'histoire de ces techniques. Donc voilà, c'était ça la gageure.
Eh bien, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, cher Loïc. Et une invitée pour cuisiner des biscuits, il y en a partout sur le plateau dont on va déguster. Et ça, c'est grâce à Déborah Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Bon, chroniqueuse, hein, évidemment, libraire gourmande, mais là, vous venez en qualité d'autrice d'un super livre sur le sujet, Le Petit Gâteau de nos rêves, chez First Edition, avec les photos de Géraldine Martins. Alors, Le Petit Gâteau, c'est une acception plus large que biscuit, on en parlait juste avant cette émission d'ailleurs. Même si votre livre comprend justement beaucoup, beaucoup de recettes de biscuits, on va tenter de comprendre la différence entre les deux. Et puis, on va surtout déguster quelques-uns de vos meilleurs crus de biscuits, dont une petite douceur d'enfance, non ?
Oui, effectivement, le gâteau que j'ai appris à faire toute petite avec ma grand-mère et qui est ma madeleine à moi, même si c'est un biscuit.
Mais on va aussi aller du côté de l'Italie et également du côté de l'Andalousie, c'est bien ça ?
Andalousie, Afrique du Nord, oui.
Et voilà, donc voilà, les biscuits, on va voir que c'est aussi évidemment une aventure mondiale. Je vous emmènerai également sur l'île de beauté, terre de naissance d'un fabuleux biscuit nommé Canistrelli. Rendez-vous dans le courant de cette émission dans la boutique atelier à Biscuteria, la biscuiterie artisanale de Jean-Étienne Ventour et à Bastia. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, je suis enchanté d'accueillir Elvira Masson. Salut.
Salut, bonjour à toutes et tous, ça va très bien. Bah, de mon côté, direction la Grande-Bretagne, on se refait pas pour un biscuit et une nice cup of tea.
Voilà, petite leçon de trempage dans la tasse de thé avec Elvira. Quel biscuit y a-t-il chez vous ? Pour interagir en direct dans l'émission, il y a notre mail, onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, chronique, adresse, recette, coup de cœur, podcast, franceinter.fr, à la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Allez, je vous propose d'attaquer cette émission en douceur et dans la bonne humeur. Dégustation à l'aveugle, je vous prie. J'ai déposé sous vos micros, et bien justement, un biscuit.
On l'entend craquer.
Alors déjà, ils ont chacun un parfum différent, même s'ils ont tous la même forme. Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire cette forme ?
Bah, c'est un hexagone.
Oui, bravo.
Ce n'est pas courant pour un biscuit.
Un hexagone, donc 5 côtés, c'est ça ?
Non, c'est 6 côtés.
Ah non, c'est 6, pardon. Oui, 6 côtés, hexagone, hexa, oui, tout à fait. 6 côtés. Alors, est-ce que vous aimez ? On sent des textures sèches et croquantes.
Un peu torréfiées.
Oui. Loïc, vous avez la parole, vous la gardez.
Un peu torréfié, sableux.
C'est un sablé.
Alors par contre, j'arrive pas à identifier, moi. Le...
Pas facile.
Moi, clairement, Déborah. Ce sera du sarrasin.
Bravo.
Et effectivement, une texture très sableuse. C'est-à-dire, on croque dedans, ça s'émiette, ça s'effrite. Assez peu de sucre. C'est presque un cracker, ça. On est à cheval, je trouve.
Le peu de sucre est revendiqué par l'auteur de ce biscuit. Vous avez raison, mais bravo, un point pour Déborah, puisqu'il s'agit bien d'un biscuit à base de sarrasin. Il y a du sarrasin, donc évidemment cette graine qui est une céréale, même si botaniquement c'en est pas une, mais en tout cas, il y a effectivement du sarrasin et également du sobacha, donc la version torréfiée à la japonaise de ce sarrasin et de cette graine qu'on trouve beaucoup en Bretagne. Elvira.
De mon côté, c'est cacaoté. C'est
bravo.
Assez amer, il y a une belle amertume.
Donc, oui.
Pour les amateurs de chocolat très poussé, c'est idéal. Et il y a également une petite graine qu'on distingue. Donc à l'œil, j'avais l'impression que c'était une graine de sésame blond. Ça aurait pu être ça, mais en la goûtant, ça a une saveur comme ça, assez ronde, assez chaude, un peu vanillée.
Oui.
Et je me demande si ce n'est pas une des graines de Mélilo.
Bien joué, Mélilo, c'est, on la surnomme aussi la vanille champêtre.
La vanille
champêtre,
des champs, hein. Ouais, vanille des
champs. Et ben on est là, Mélilo, gruée de cacao, chocolat, bien
gruée,
joué.
Oui, c'est ça.
Voilà, gruée de cacao, ça c'est pour le croustillant, donc on parle vraiment des éclats de fèves.
Petite pointe de sel aussi, non?
Des éclats de fèves de cacao avec une petite pointe de sel, et pour Loïc, c'était blé, vanille, amande.
Ah, je veux bien goûter Loïc, moi, vanille.
Ça vous plaît?
Oui. Il m'en reste d'ailleurs peu.
Le nom de baptême de ce biscuit, c'est l'Exa. Et ces exas sont relativement exacts en termes de saveur, si j'en juge par vos commentaires. Eh bien, l'exa est signé Alain Ducasse et ses équipes. Je veux proposer les meilleurs biscuits du monde, a déclaré en toute simplicité le chef multi-étoilé Alain Ducasse le 1er septembre dernier, le jour où il lançait à Paris cette biscuiterie haut de gamme. Ça se passe au numéro 42 de la rue de la Roquette, Paris 11e, après le chocolat. La glace, le café, eh bien, Alain Ducasse s'attaque aux biscuits à travers une trentaine de recettes qu'on peut trouver dans cette biscuiterie, qu'on peut aussi se faire livrer évidemment partout en France. Preuve que le biscuit est une discipline qui a le vent en poupe sur la scène gastronomique. Voilà, les biscuits d'Alain Ducasse, 42 rue de la Roquette, Paris 11e. Si vous avez envie d'aller découvrir ces biscuits avec évidemment des matières premières particulièrement bien sourcées, des farines bio. Et puis, ils jouent surtout la diversité des farines et pas seulement de blé, on l'a constaté. Voilà, alors comment se définit un biscuit? Quelle est son origine et ses différentes traditions en France et dans le monde? Pour répondre à cette question, on a Loïc Bienassi et Déborah Dupont derrière la vitre de la régie pour mitonner cette émission en direct. Laurent Thomas, Laurent Baudouin, Fabrice Ribaud. On se retrouve juste après... les 100 seulement. Les 100 prochaines années d'Albin de la Simone. Un titre de la playlist de France Inter choisi par Djoubaka. Bon dimanche sur France Inter.
Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai. Dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Prochaine. te verrai bien les 100 prochaines années. Et après, on voit.
Et si on attaquait d'emblée notre leçon de biscuit par des travaux pratiques? Avec vous, Déborah Dupont, une petite recette extraite de votre livre Le Petit Gâteau de nos rêves, aux éditions First, First Edition. Alors, une recette qui a une tonalité italienne, mais que vous n'avez pas du tout...
Pas du tout. Moi, c'est vrai que mon influence, premier livre vraiment dédié au petit gâteau au biscuit que j'ai découvert, c'était le livre de Martha Stewart.
C'est ça.
Aux éditions Marabout.
Alors là, on parle de la célèbre...
Biscuit sablé cookies.
Animatrice de télévision, femme d'affaires américaine.
Et puis, qui a été vraiment la première à introduire aussi les cookies sur le territoire français, à en parler. Enfin, ce livre qui a eu deux éditions était juste génial. Et les éditions Marabout refusent obstinément de le rééditer à mon grand désespoir. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'écris des livres.
On va essayer de leur passer le
message. C'est pour combler un manque. Oui, non, franchement, c'était un livre qui était génial. Alors, un peu sucré à notre goût français. Donc, mais elle avait plusieurs recettes de biscottis et c'est ça ce qui m'a permis de découvrir. Nous, en France, on aurait plutôt les croquants un peu sur le même style. C'est donc effectivement des biscuits qui vont être cuits en deux fois, comme le nom l'indique. Biscottis, bicuit, biscuit, cuit en deux fois. Donc en fait, on prépare une pâte toute simple avec d'un côté des ingrédients, on va dire secs, de la farine, du cacao. Là, en l'occurrence, le biscotti que j'ai apporté est effectivement cacaoté avec de la pistache et des cranberries.
Mm-hmm.
Donc on mélange de la farine, du cacao, un petit peu de levure.
Oui.
Et de l'autre côté, on va crémer du beurre avec du sucre,
mm-hmm.
donc pour obtenir du beurre mou, hein, qui va être mélangé avec du sucre. On le mélange, on rajoute des œufs. Et ensuite, on va verser dans les poudres, donc on va mélanger et on va rajouter une garniture. Donc ça peut être des noix, ça peut être des amandes, ça peut être effectivement des pistaches.
Il y a des pistaches.
Moi, j'aime bien rajouter aussi des fruits secs. Donc ça peut être de la cerise confite, ça peut être
des cranberries.
Enfin voilà.
Des raisins secs.
Exactement. C'est vraiment selon les goûts. Et on façonne des pains. Donc on façonne deux pains qui font à peu près une vingtaine de centimètres de long, 10 centimètres de large et qui vont partir en cuisson. Première cuisson, ensuite on les sort, on les laisse un petit peu refroidir, ça va craqueler légèrement en surface, ça va un petit peu se solidifier. Et là on coupe des tranches au couteau scie. Alors toute la technique, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on peut adapter à son goût.
Mm-hmm.
Il faut couper pas trop épais, pas trop mince, parce qu'ensuite ça va repartir sécher au four.
Il y a un bon centimètre d'épaisseur.
Ouais, moi je suis même plutôt 1,5 cm, 2 cm, mm-hmm. parce que j'aime bien que ça reste quand même moelleux.
Et
sinon, pour moi,
aussi,
on passe dans les croquants.
Ouais, au couteau aussi, parce que c'est déjà la texture est déjà quand même bien résistante. Quoi.
Exactement.
Ouais, okay.
Donc c'est vrai que ça permet. Et puis étant donné qu'on a aussi des pistaches entières à l'intérieur,
oui,
ça permet aussi de les casser plus facilement.
Une fois le pain tranché, ça repart en cuisson.
Ça repart en cuisson pour à nouveau 8-10 minutes.
Mm-hmm.
Donc et là ensuite on le laisse refroidir et ça permet d'avoir. Alors, moi j'aime bien quand ils sont encore, on le voit d'ailleurs, un petit peu moelleux au centre.
Mais
là,
oui.
Ils ont été faits il y a 4 jours quand même.
Ils ont un cœur encore un tout petit peu onctueux, c'est ça qui est chouette.
Oui.
On n'est même pas très loin à certains égards d'un brownie, mais en même temps avec
une carapace
très biscuitée.
Voilà, ça croque et on pourrait les faire sécher plus longtemps et dans ce cas-là, on se rapprocherait des croquants qu'on trouve notamment en Provence et qui là sont carrément des biscuits beaucoup plus durs où on va croquer, ça va être du gros morceau.
Il y a également les cantucci en Italie, hein, dans la même veine. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans des biscuits très durs.
Très durs, voilà, c'est pour ça. C'est ça ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à avoir le juste dosage par rapport à son goût. Et si vous les voulez plus croquants, bah vous les faites un petit peu plus fins ou vous les faites sécher un petit peu plus longtemps. Ça dépend aussi de la durée de conservation que vous voulez. C'est ça, ce que je trouve passionnant avec le monde des petits biscuits, plus le fait que ce sont des ingrédients hyper simples. C'est-à-dire, on parle là quand même de beurre, sucre, œuf, farine, ce qu'on a à peu près tous dans nos cuisines et ce qui permet de se lancer sans trop de préparation.
Et vous revendiquez 10 minutes de préparation, 35 minutes de cuisson, on peut se faire plaisir en peu de temps avec des ingrédients simples à la maison. Qu'est-ce qu'on pense de ces biscottis autour de ce plateau, Loïc ?
Très léger. Je trouve ça subtil en chocolat, en fait.
Ouais.
C'est vraiment... Et aéré aussi. Mmh. C'est-à-dire que, justement, quand on parle de biscuits, parfois, on imagine quelque
pas
chose d'un
lourd.
Peu dense. Non, là, pas du tout.
Ils ont même un moelleux très agréable.
Et puis, ouais. La texture que je trouve super, qui est un peu surprenante. On ne sait pas très bien si ça va être résistant, un petit peu moins. Donc là, il y a à la fois la carapace qui croque sous la dent, et puis ce cœur plus tendre. Enfin, c'est super intéressant en termes de texture.
Loïc, biscotti... Biscotte, biscuit, tous ces vocables ont une étymologie qui signifie finalement cuit deux fois, biscotti ou biscuit, Donc ça fait référence à une double cuisson. Est-ce que cette technique de double cuisson est une bonne façon d'aborder, de définir le biscuit ?
Étymologiquement, oui. C'est-à-dire que, en effet, au Moyen Âge, clairement, parce qu'on trouve trace de toute une famille de mots, justement, biscuit, 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 au Moyen-Âge. Par exemple, je sais pas, chez Chrétien de Troyes, par exemple, on voit qu'il emploie ces termes-là. C'est vraiment, finalement, un mot assez banal. Par contre, qu'on retrouve dans des contextes spécifiques, du pain-biscuit, des contextes militaires, c'est-à-dire du pain pour les armées, du pain, dans le cas de villes assiégées, pour la population, et surtout, sans doute, pour la marine. Là, vraiment, des provisions pour la marine. On faisait des pains cuits deux fois parce qu'ils sont secs, ils se conservent longtemps. Au Moyen-Âge, évidemment, je m'aventurerai pas à préciser exactement, parce que les sources font défaut, la façon dont on les préparait. Peut-être que déjà, dès ce moment-là, il y avait d'autres façons de faire que la double cuisson.
L'idée, c'est-à-dire, c'était en tout cas, on pouvait les cuire un pain une première fois et le laisser sécher.
Par exemple, exactement, dans une étuve, c'est-à-dire un espace chaud, mais qui permettait une évaporation complète de l'eau, parce que c'était ça l'idée, d'avoir le produit le plus sec possible.
Pour qu'il se conserve le plus longtemps possible.
Exactement. Et donc, ça devait, je dis ça devait, parce que là encore, au Moyen-Âge, on n'a pas de description précise, se présenter sous forme de galettes. Des galettes d'un pain sec, d'un pain biscuit, donc.
Et pas forcément sucré, soyons d'accord.
Ah oui, non. Au contraire, j'ai envie de dire, là, clairement, il ne l'était pas. C'était un produit vraiment pour les marins, un produit simple pour assurer, j'allais dire, les voyages sur de longues distances et une conservation longue. Donc c'est pas un aliment plaisir, là c'est sûr à ce moment-là. D'ailleurs, il n'est pas exclu, il est même probable, on l'entendait au début, que ce type de pain, on va dire, existait dès l'Antiquité. On a plutôt des indices qui vont dans ce sens. Et puis, ce qui est frappant, c'est que ces biscuits, par contre, ont été présents jusqu'au XXe siècle, utilisés par la marine, marine française et toutes les marines, et que c'est que dans l'entre-deux-guerres où finalement on est passé à autre chose, notamment une préparation de pain à bord. Mais donc c'est vraiment historiquement, ce biscuit, ça a été l'aliment de base des marins. Voilà, je crois que c'est vraiment ça.
Des marins et des guerriers, partout où il fallait des pains finalement qui se conservent longtemps.
Exactement.
Et qui servent de nourriture quotidienne.
Absolument,
en fait.
Oui, ça, clairement. Et donc les villes portuaires étaient logiquement des grands lieux de production de biscuits pour les navires.
Biscuit, biscotte. Biscotte est également un mot français qui signifie cuit deux fois. Est-ce que finalement la biscotte n'est pas la version moderne de ces pains de nécessité ?
Alors, sans doute, d'autant qu'en fait, ce qu'on voit à partir du XVIIIe siècle, quand on dispose de vraiment beaucoup plus de recettes, c'est que la double cuisson, là, n'est plus très présente. Il s'agit, là, c'est clair, de faire des pains qu'on assèche ensuite en étuve. Par contre, la biscotte, le mot apparaît en français à la fin du XVIIIe siècle. Là, on a une sorte, pour dire simplement, de pain de mie, qu'on a fait cuire, et qu'ensuite, on soumet à une autre cuisson, on remet au four, pour obtenir, et on met ces tranches, un peu ce qui a été expliqué, pour obtenir donc ces biscottes qui étaient là encore une sorte de pain recuit, séché. Et la biscotte devient quelque chose qu'on trouve un peu partout au 19e siècle et c'était un produit santé. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de manger des biscottes parce que c'était bon pour la santé. Mais d'ailleurs, on trouve aussi ça à partir du 16e siècle, on a des éléments assez clairs pour les biscuits eux-mêmes. C'est-à-dire que les biscuits eux-mêmes, donc ces biscuits de marins que j'évoquais, on voit qu'il y a déjà un petit glissement dès le XVIe siècle vers le produit de santé dans certains cas où il s'agit, parce que c'est un produit sec, d'éliminer l'excès d'humeur. On imaginait que c'était quelque chose d'asséchant et que du coup, ça permettait de rééquilibrer les humeurs. Je reviens pas sur la manière dont on concevait l'équilibre des humeurs dans la médecine au XVIe siècle et avant.
Et on va voir tout au long de cette émission, évidemment, que la définition du biscuit a évolué, a subi des transformations, des évolutions, des métamorphoses. Le biscuit, dans son acception moderne, ne peut pas être réduit à la technique de double cuisson, puisque d'ailleurs, dans le livre de Déborah Dupont, finalement, Biscotti, c'est le seul biscuit de votre livre à subir une double cuisson.
Non, bah, j'ai même envie de dire au contraire, puisque c'est vraiment rare. Là, il y a les biscuits de Reims, par exemple, qui connaissent toujours cette double cuisson, mais c'est l'exception.
Donc s'il fallait définir aujourd'hui, alors, le biscuit, sur quels critères on pourrait s'appuyer?
On peut revenir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose déjà de simple, composé d'un mélange farine, œuf et sucre.
Dominante de farine, tout de même.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, je crois quand même, la pierre de touche, c'est vraiment la texture. C'est-à-dire le fait que ce soit cassant, que ce soit croustillant. Pour le biscuit, je pense que c'est d'abord ça renvoie à cette idée. Et sans doute aussi, il y a cette idée de petite dimension aussi. C'est un biscuit est forcément petit.
Petite douceur aussi, j'ai envie de dire portative ou nomade. Hein.
C'est ça, tout à fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est la vocation première du biscuit et on continue de la retrouver.
Donc texture sèche et croquante, Déborah Dupont.
Oui, et j'ajouterais aussi une certaine durée de conservation. Pour moi, c'est ça aussi est primordial dans le biscuit. Le biscuit, effectivement, ça se conserve. Alors ensuite, dans une boîte métallique, on a connu ça chez nos grands-mères, hein, la boîte en fer. Et le biscuit permet aussi de s'organiser. C'est-à-dire, on les fait, c'est la tradition alsacienne. On prépare les petits gâteaux pour Noël, on les prépare sur la période de novembre et ensuite on les mange pendant la période de l'Avent. Donc il y a quand même cette idée de durabilité dans le temps.
Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les petits gâteaux. Rappelons que le titre de votre livre...
C'est fait exprès que ça soit les petits gâteaux, c'est parce que justement je n'ai pas voulu l'appeler le biscuit. Ouais.
Mais ça dépasse surtout, il n'y a pas que des biscuits dans votre livre, c'est ça que ça veut dire?
Il y a effectivement des petits gâteaux qui sont plutôt moelleux et qui eux doivent se manger relativement rapidement. Une madeleine ne sera jamais aussi bonne qu'à la sortie du four. Si vous attendez 3 jours pour manger une madeleine, ça perd quand même un peu
même
son
intérêt.
Même
s'il y a une vraie tradition de petite madeleine très très sèche, hein, et pas moelleuse justement, mais il est vrai que la vraie madeleine telle qu'on l'imagine, elle a quand même un cœur tout à fait rebondissant.
Une auditrice, Juliette, nous écrit justement « J'attendais les bredelets alsaciens dans votre introduction, mais non, je comprends donc que ce ne sont pas des biscuits. »
Ah.
Alors si.
Parce que pour elle, ils sont pas en double cuisson.
Non, voilà. Ils ne sont pas en double cuisson, mais c'est l'acception, on va dire, moderne du biscuit par rapport au côté petit gâteau sec. Voilà, on va dire, le biscuit actuel, c'est le petit gâteau sec qui va effectivement pouvoir se conserver un peu dans le temps.
Mais un moderne, j'allais dire ancien, c'est-à-dire que même au XVIIIe siècle, la double cuisson était largement abandonnée pour les biscuits.
Eh bien justement, on évoquait l'Alsace de Déborah Dupont, on y reste. Une autre recette de biscuit, attention, c'est une spéciale madeleine d'enfance, même s'il ne s'agit pas de madeleine.
France Inter. On va déguster.
Un nom imprononçable. Non, je plaisante. Un nom qui demande un petit apprentissage de prononciation, on va dire.
Le Tsemetkur.
Le
Tsemetkur.
Comment on l'appelle?
Tout simplement.
Comme ça se prononce? Non, donc Tsemet, en fait, c'est la cannelle. Et cure, coronne, c'est le gâteau. Donc on est sur, on va dire, un yiddish matiné d'alsacien, d'allemand, on ne sait pas trop.
Donc on ne dit pas cuche?
Non.
Comme flammekuche, donc on devrait dire flammekure.
En tout cas, moi, ma grand-mère l'appelait vraiment le tsemetkure.
Oui, puisqu'il s'agit donc évidemment d'une tradition familiale.
Oui, c'était vraiment le petit gâteau que faisait ma grand-mère, mais qui est d'une simplicité enfantine. C'est en fait, on est sur
ça,
une pâte.
Voit, alors.
Je vais vous donner les proportions, ça va tout de suite vous rappeler quelque chose. Si je vous dis 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de farine et un œuf.
Ça nous plaît.
Voilà, on est un peu sur la pâte.
Vous avez oublié quand même une.
Ça se saupoudre après.
Ah,
c'est effectivement, on rajoute la cannelle.
C'est ça.
Mais la cannelle n'est pas dans la pâte, la cannelle est uniquement saupoudrée. Donc ce qui est intéressant aussi avec ce petit gâteau, c'est qu'on peut le faire de deux manières différentes. Ma grand-mère le faisait en sablant le beurre froid avec le sucre, la farine et ensuite elle amalgamait avec l'œuf. Moi, j'ai jamais réussi à le faire avec cette méthode. Donc moi je l'ai complètement tordu pour le faire avec une méthode de crémage. Donc toujours mon beurre mou, je trouve ça beaucoup plus simple en fait. Beurre mou mélangé avec le sucre, ensuite on rajoute la farine et puis c'est un gâteau qu'on fait avec les mains. Pas besoin de robot, rien du tout. On rajoute l'œuf, ensuite on l'étale. Alors ma grand-mère l'étalait en cercle, moi je trouve ça plus pratique d'avoir un carré ou un rectangle, parce qu'ensuite on coupe, ça permet d'obtenir des parts un peu plus régulières. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui on va le pré-couper avant cuisson, on va le saupoudrer de sucre en poudre et de cannelle, et on va le mettre pour cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four, on va recouper les traces qui ont été prédécoupées. Si vous cherchez à le couper uniquement en fin de cuisson, c'est comme essayer de couper une pâte à tarte. Vous risquez d'avoir des éclats, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez des personnes chez vous qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez tout à fait faire une part du gâteau sans saupoudrage.
En faisant l'impasse.
Exactement, en faisant l'impasse sur la cannelle. Et ce qui est important, c'est de pas l'étaler trop fin. Moi, j'aime bien quand ça fait 1 cm, 2 cm d'épaisseur, ce qui permet d'obtenir cette texture encore un peu fondante et de ne pas se casser une dent dessus.
Oui. Et même si après, en prenant un peu d'âge au fil des jours, le biscuit va s'assécher.
Oui, alors lui, tient 5-6 semaines sans aucun problème dans une boîte métallique.
Ah oui, c'est un biscuit de guerre.
C'est
quoi.
complètement.
C'est délicieux.
Et on peut s'en servir ensuite si on a envie pour faire une base un peu comme les shortbread. On l'émiette sur des fruits poêlés, on rajoute une petite crème. Enfin, ça peut ensuite servir à plein de desserts en fin de repas. On n'est pas obligé de se le manger. Enfin, nous, on le mange toute la journée et généralement, quand j'en fais, il dure pas la semaine. Mais ça se garde en théorie, 5-6 semaines sans aucun souci.
Jusqu'à Noël prochain ?
Non. Alors, jusqu'à Noël prochain, non, là, peut-être pas.
Parce que ce n'est pas, malgré la présence de la cannelle, ce n'est pas particulièrement un biscuit de fête en Alsace.
Non. Alors, dans ma famille, nous, on le faisait toute l'année. C'était vraiment le petit gâteau. Et ma maman, quand elle gardait les enfants petits, elle leur en apportait toutes les semaines. Donc, non, nous, c'est vraiment un intemporel, on va dire.
Le Tsemetkuk.
Cure.
J'y arrive pas. Le Tsemetkur d'Alsace, c'est délicieux, avec ce petit cœur onctueux et ce parfum chaud et épicé de la cannelle, vraiment, bravo. Et la recette est évidemment sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Manifestement, Loïc Bienassi, vous prenez un énorme plaisir à la dégustation de ces biscuits, puisque je sais qu'au-delà de votre travail d'historien, vous êtes un gourmet, un gourmand, voire même un bec sucré.
Oui.
Est-ce à dire que les biscuits qui étaient des aliments de nécessité, on l'a compris, réservés aux marins ainsi qu'aux guerriers, peuvent devenir des aliments plaisir, des douceurs, des friandises?
Clairement, ouais, alors parce que vraiment, c'était pour le redire, c'était l'antithèse du plaisir. Hein, c'était très dur ces biscuits, hein, mais je veux dire vraiment dur, c'est-à-dire qu'il fallait les humidifier, fallait les casser, fallait parfois les mêler à quelque chose pour qu'ils deviennent mangeables. Enfin voilà, c'était l'antithèse de l'aliment justement de gourmet. Hein. Je crois que la bascule, pour ce que j'ai pu en voir, se fait au XVIe siècle. On commence à avoir des occurrences où on a par exemple ce qu'on appelle un Noël, un chant de Noël, qui date de 1520, qui présente un banquet. Mm-hmm. Eh bien, des mets sont énumérés, des mets festifs, et dedans on trouve les biscuits. On a un livre de cuisine du milieu du XVIe siècle, et on voit que là aussi, dans un menu de banquet, sont énumérés tout un tas de plats, et au milieu des tartes, des gaufres, des beignets, on trouve aussi les biscuits. Donc clairement...
Présence de sucre ?
Alors, présence de sucre, on n'a pas encore de recette à ce moment-là, à ma connaissance en tout cas, mais on trouve une recette dans un ouvrage anonyme qui s'appelle Le Trésor de Santé. Là, on est en 1607, tout début du XVIIe siècle. Et on trouve toujours ces biscuits comme étant présentés comme des mets de fin de repas, de fin de banquet. Et là, on a des recettes qui mêlent fleurs de farine, du sucre, de l'anis aussi, et on voit une vraie diversification. Donc, à mon avis, 16e siècle, mal documenté, mais le phénomène, j'allais dire, est en cours.
C'est le siècle de bascule.
C'est ça, je pense. Et où on intègre le biscuit en fin de repas, parmi d'autres douceurs, et avec une diversification des recettes, où on intègre tout un tas de choses, cannelle, épices, anis, etc.
Et on va voir de surcroît que ces biscuits se prêtent à des traditions de trempage. On va le voir avec Elvira pour ce qui est de nos amis d'Outre-Manche, qui évidemment ne peuvent pas boire de thé sans l'accompagner de biscuits. Mais il y avait également cette tradition qui remonte peut-être à la Renaissance, de tremper des biscuits dans des vins doux. C'est encore des rituels gourmands très présents du côté de la Botte, en Italie. Hippocrate, vin doux.
Alors, le dater précisément cette pratique du trempage, ce que je sais, c'est que dans le dictionnaire de Furtière, on est en 1690, il l'explique qu'on peut en effet tremper les biscuits dans du vin d'Espagne. La Renaissance, j'avoue que, en tout cas dans le cas français, moi je connais pas d'occurrence précise.
Mais c'était certainement une manière d'assouplir le biscuit, de le rendre plus moelleux, mais également de le sucrer peut-être.
Non, alors et puis de toute façon, en effet, même si c'est plus du biscuit de marin qui est dur comme une brique, il est clair que ça reste quelque chose de sec. Dans les recettes du trésor, on est en 1607, il n'y a déjà pas la double cuisson, mais par contre, clairement, il y a une longue cuisson, 1h30, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de sec, d'asséché.
Et un peu plus proche de nous pour le trempage, c'est aussi l'invention du biscuit à la cuillère, puisque c'était le ministre Talleyrand qui en fait aimait tremper un petit biscuit dans un verre de madère, et il a fallu créer une forme de biscuit qui permette en fait d'aller dans le verre. Donc ça fait partie des en tout cas que je l'ai trouvé quand même dans plusieurs sources. Loïc fait la moue.
Loïc, ça y est, Loïc, vous savez quand il est pas d'accord avec une hypothèse historique,
on le voit tout de suite.
Il lève les yeux au ciel, il commence à arborer un énorme sourire ironique.
J'aurais rien dit en plus. Non. Mais... Non, je sais qu'on trouve dans le Canamélis français, donc on doit être en 1751, une recette de biscuits à la cuillère, où il explique que justement... La spécificité, c'est la forme, puisqu'il est donc préparé à la cuillère, allongé. Donc, on a vraiment des occurrences claires du 18e siècle, donc avant Talleyrand, en fait. C'est
pour et ça. Ensuite, ça a donné lieu à Antonin Carême, qui a inventé une sorte d'entonnoir à piston pour pouvoir les pocher plus facilement. Enfin, ça a quand même aussi créé ensuite, d'un point de vue technique, l'invention de la poche à douille, les choses comme ça. Ça passe, Loïc, c'est bon.
Mais justement, dans un instant, on va évoquer des biscuits de France avec leur tradition, car on va voir qu'il y a des biscuits un peu partout en France. On va également faire un pas de côté à l'étranger avec Elvira qui va nous parler des biscuits d'Angleterre mais également de Suède. Je rigole parce qu'on me reproche souvent de ramener la Corse et l'Italie. C'est un certain Garcia qui dit parle toujours de Corse et d'Italie. Non mais moi j'aime toutes les cuisines du monde, mais il est vrai qu'après on a aussi un peu
chacun son tropisme. Voilà, un petit peu quand même.
Moi c'est l'Alsace.
Il y a la Suède d'Elvira aussi et ça nous va très bien. On va parler également de leur industrialisation, d'autres recettes avec Déborah Dupont. Bon appétit sur France Inter.
Thunder in my planet. You mug my body, bruise all over my skin. Our lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in. And now I'm high, was it all a dream?
Les biscuits au menu dont on va déguster, accompagné d'un petit Juice of Mandarins, signé des sœurs jumelles françaises d'origine cubaine IBI, extrait de leur dernier album Spell 31. Je vous propose à présent un petit aller-retour croustillant sur l'île de Beauté.
On va déguster sur France Inter.
Jean-Étienne Ventour, biscuitier donc à la rue Napoléon à Bastia.
À Biscuiteria, qui fait beaucoup de bruit en ville.
Ouais, beaucoup de bruit et surtout beaucoup d'odeur apparemment, puisque tout le monde dit que ça sent super bon. Donc.
Parmi toutes vos spécialités, il y a évidemment un best-seller, c'est les canistrelli.
Les canistrelli. Donc nous, on décline à plusieurs goûts, on va dire. J'aime pas dire parfum, parce qu'on n'utilise pas d'arôme. Donc c'est toujours l'ingrédient qui va dicter le goût du biscuit. Donc on décline les canistrelli aux œufs, parce que dans ma famille, on les faisait aux œufs. Mais on fait aussi les coujoulés, pour penser à nos amis de Balagne, donc huile et vin blanc. Qui sont plus croustillants et on les laisse nature.
Alors racontez-moi la différence. C'est vrai qu'on fait souvent la confusion entre ces deux biscuits corses.
Ben, on fait la confusion parce que c'est vrai que le canistrelli qui est connu, c'est le canistrelli deux îles et qui en fait, si vous regardez le paquet, c'est bien écrit Kujulil, donc qui a priori viendrait de Calenzane. Donc ça a été celui qui a été démocratisé parce que voilà, commercialisé en grand nombre. Mais voilà, le canistrelli reste une tradition chez nous. Donc, on ne connaît pas forcément l'origine précise. Il y aura sûrement des influences italiennes, voilà, puisqu'on est assez proche de Gênes. Mais j'ai vu aussi en Balagne appeler le canestrello aux œufs tortellini. C'est pour ça qu'on mélange toujours un petit peu les origines, on ne sait pas trop, mais l'essentiel, c'est qu'on se régale.
Est-ce qu'on peut entrer dans les coulisses de votre atelier?
Oui, bien sûr, on met l'uniforme d'abord. Hein. Du coup, voilà, là, je suis en train de préparer ma pâte. Moi, je n'ai pas d'arôme, je n'ai pas de conservateur particulier, si ce n'est le sucre, le sel, les conservateurs naturels, hein, tout simplement. On est en train de faire les canisteries donc, aux œufs, aux amandes. Donc, j'ai concassé moi-même mes amandes que j'ai fait torréfier avant, etc. Ensuite, j'ai préparé mon mélange. Moi, j'utilise le beurre pour les canisteries. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver soit l'huile, soit la margarine, le saindoux, mais je ne sais même pas si c'est autorisé finalement. Farine, les œufs. Et puis après, l'ingrédient qui va bien pour faire un canisterie spécial. Donc, je vais la terminer avec une machine un petit peu plus grosse qu'on n'a pas forcément à la maison, donc un batteur mélangeur. La pâte, elle est donc prête à être étalée. Donc, c'est la partie un peu moins agréable parce qu'il faut utiliser les bras. Donc, je ne suis pas très, très, très costaud.
Un gros rouleau à pâtisserie. Et là, on se retrouve avec un rectangle qui fait environ un demi centimètre d'épaisseur.
On est quand même proche du centimètre, hein, je pense. Hein, voilà. Moi, je sucre un petit peu la pâte. Que ce soit joli, hein, c'est pas forcément pour ajouter du sucre. Après, on découpe. J'ai un petit outil, une multi-roulette. Ça s'appelle une bicyclette. Donc, je coupe en carré. Voilà. Après, il y en a qui les font en rectangle. C'est vrai qu'on a l'habitude, le canisterie, de l'avoir en très gros. Bon, nous, on l'a un petit peu designé, on va dire, pour qu'il soit plus petit, plus agréable à manger. Voilà. Donc, une fois que tout est coupé, on prend la spatule, on remplit ces plaques-là. Là, d'ailleurs, la première fournée, hop, va sortir.
Oh, qu'ils sont beaux. Alors, ils sont rebondis, bien dorés.
C'est croustillant, c'est sablé, donc c'est pas dur. La recette, c'est vraiment ma mère qui l'a mise au point. Donc, elle l'a hérité de sa mère en partie, mais quand on s'est installé ici, on l'a pimpé avec quelques ingrédients. On a fait plusieurs sortes.
Et là, on a le mur des canistrelles avec combien de goûts?
Si vraiment j'ai toutes les références en même temps, je crois qu'on est à 23 sortes. On commence par les natures, hein, qui sont les classiques, légèrement vanillées, ce que les anciens aiment bien manger avec le café. Donc on va avoir la déclinaison du coup de ces natures en amandes, figues, orange confite, châtaigne, raisin, noisettes. On a citron, chocolat, miel de châtaignier de chez nous. On a un peu plus original au café. Et après, on a les fameux au vin blanc, donc, comme on en parlait tout à l'heure.
Les coups de joulel.
Les coups de joulel, donc de manière originelle à l'huile d'olive.
Et puis, il y a aussi ce parfum.
Oui, le canestrello à l'anis qui est demandé beaucoup par les anciens. C'est un peu le traditionnel, on va dire, pour les canestrelli.
Les canestrelli de A Biscuiterie à Bastia, signé Jean-Étienne Venturi. Alors, à ne pas confondre, vous l'aurez compris, avec les coups de joulel. Donc, canestrelli, beurre et œufs. Coup de joulel, il y a vin blanc et huile d'olive. Voilà. Et vous avez les deux versions dans vos assiettes, notamment la version de canistrelle à l'anis et les coups de joulel avec vin blanc
Moi, je
et huile d'olive.
Moi, je vote coup de joulel.
Incroyable.
Incroyable.
Ils sont dingos, non?
C'est l'huile d'olive qui fait ça.
Et la texture est beaucoup plus
avec une pointe de sel.
C'est absolument dingue.
Risque très, très élevé d'addiction. Attention, à Biscuiteria, actuellement 3 rue Napoléon dans le Vieux-Bastia. Et cette biscuiterie artisanale déménagera au printemps prochain au 14 rue Napoléon pour un local, un atelier plus grand avec de l'accueil, un salon de thé, etc. Voilà, le très, très beau travail artisanal de Jean-Étienne Ventour et de toute la France.
On se manifeste sur
le mail dont va déguster et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter.
Chacun et chacune partage son coup de cœur, son biscuit d'enfance, son biscuit régional, du broyé du Poitou en passant par les Lekkerli de Bâle, le petit beurre tout simplement, les rousquilles, le pisto coussarde. Et une auditrice, Isabelle Vallet, nous parle d'un biscuit dont je ne connaissais absolument pas le nom, le claque.
Ah,
le claque.
Ça vous dit rien?
Absolument.
Isabelle Vallet, bonjour, mon biscuit préféré, le claque à la crème de lait. Mon voisin a des vaches jerseyaises, elle a bien de la chance. Et avec des zestes de citron du jardin, miam miam.
Ça alors, je ne connaissais pas du tout.
Moi non plus.
On va s'enseigner sur...
Le problème va être de trouver la crème de lait.
Oui, évidemment.
Ce qui est effectivement dans nos contrées urbaines un petit peu compliqué.
Mais en voilà une sacrée énigme biscuitière.
Et on a une question technique qui nous est envoyée par Samir Ouriagli.
Ah bon, on le connaît un peu, notre monsieur épice,
notre monsieur épice
dans la bande dont on va déguster. Bonjour Samir.
Question pour vous, pourquoi les biscuits secs ramollissent et les gâteaux mous s'assèchent avec le temps?
Ça s'appelle l'activité de l'eau.
Non mais attendez, il a raison. Super question.
Ça s'appelle l'activité de l'eau, c'est quelque chose sur lequel travaillent tous les pâtissiers, les chocolatiers. Effectivement, le biscuit sec va capter l'eau qui est dans l'atmosphère et le biscuit plutôt moelleux, lui au contraire, va le perdre. C'est tout simplement un phénomène. Alors je ne sais pas, les physiciens diront peut-être que c'est de l'osmose inverse. Je ne sais pas la spécificité technique, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des boîtes hermétiques.
Oui.
Voilà, et par catégorie, on les mélange pas parce que vous aurez forcément des biscuits qui auront une activité de l'eau différente, et donc il faut que chaque biscuit ait sa boîte.
Ah, donc vous avez combien de boîtes chez vous?
Non, beaucoup trop. Surtout, regardez celle-là, elle n'est pas toute neuve.
Celle-là est magnifique, non? Celle-là,
votre
c'est une boîte
en métal.
Petit brin nantais.
En fer blanc, quoi, les boîtes à l'ancienne.
Oui, en fer blanc bien noirci, mais oui.
Elle a au moins un siècle.
Toutes mes boîtes, oui, viennent de chez ma mamie Yo-Yo, effectivement, date de l'entre-deux-guerres, je pense.
C'est ça. Bah, bravo. Elvira? Non, ça va?
On est bon?
D'accord. Et ben, on va passer à Loïc Bienassi, puisque on va poser cette question à notre historien. On est d'accord pour dire que les provinces de France, ce sont des vieilles traditions biscuitières, hein, vraiment partout aux quatre coins du pays.
Oui, clairement, c'est ça. Je pense que ça tient aussi à la simplicité du produit, qui permet après de varier à la marge autour d'un ingrédient, de type de cuisson,
une
etc.
Épice.
Voilà, oui, tout à fait. On voit dès le XVIIIe siècle que certains lieux commencent à être réputés pour leurs biscuits. Mmh. Par exemple, Abbeville, c'est oublié aujourd'hui. Ça, ils avaient toujours une bonne réputation, je pense que jusque dans les années 20-30, sans doute. Et puis, le savoir-faire s'est perdu. Il y a évidemment le biscuit de Reims. Alors, on parle souvent d'une invention au XVIIe siècle. Bon, j'en ai trouvé trace, en tout cas, à coup sûr, au XVIIIe siècle. Peut-être pas rose, d'ailleurs, à l'origine. On commence ça, parce qu'il y a il y a quand même une forme distincte, hein, ça, assez trapue, rectangulaire, et rose. C'est quand même sa marque distinctive. On voit évoquer ce rose du biscuit de Reims toute fin 19e, début 20e. Et après, évidemment, vraiment, c'est devient lié à l'image qu'on se fait de ce biscuit. Son âge d'or, c'est le 19e siècle. Il a un peu décliné depuis. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul vrai producteur, la Maison Fossier. Mais c'est vrai que c'est un peu le grand biscuit avec, on en parlait, ce fameux trempage dans le vin dont il est l'emblème. Quoi. Et puis après, en effet, il y a tout un tas de gâteaux, j'allais dire catégorie large, qu'on trouve un peu partout en France et qu'on peut considérer comme des biscuits. Tout un tas de sablés, par exemple, je sais pas moi, les sablés de Nancy. Il y a aussi à Marseille, les navettes. Enfin tout ça, voilà la catégorie biscuit.
Ah, avec cette petite pointe de fleur d'oranger, la navette.
Les biscottins d'Aix aussi, puisqu'on parlait biscuits, biscottis, biscottins. À Aix, on trouve des biscottins qui sont des sortes de billes, un peu. Voilà, donc c'est en effet...
Bretagne, grande terre de biscuits, oui. Certainement liée d'ailleurs à la production de beurre.
Oui, certainement, voilà, oui, des biscuits là assez riches, incontestablement. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, généralement, sont des spécialités qui remontent au 19e siècle, et parfois encore plus récentes. Hein. On a souvent l'impression de spécialités immémoriales, et puis quand on regarde, ce sont des inventions, il suffit aussi... Que ce soit un biscuitier local, un boulanger, qui développe un produit qui plaît localement et une spécialité naît de cette manière-là.
Les échelles de production de ces biscuits partout en France ont considérablement augmenté au fil des âges, de par leur succès, leurs ingrédients simples, leur temps de conservation, effectivement. Eh bien, les biscuits ont tout simplement été convoités par l'industrie. Racontez-nous ce phénomène qui date du 19e siècle.
Convoité par l'industrie, c'est-à-dire que c'est vrai que, j'ai envie de dire, le biscuit doit aussi beaucoup à l'industrie. C'est-à-dire que il y avait ces biscuits de mer, donc qui, là aussi, ont donné lieu à des grandes unités de production, en Angleterre notamment. On est au 18e siècle, grandes unités de production, mais pas du tout mécanisées, évidemment. Et puis, avec l'industrialisation, on va dire à partir des années 1830, utilisation de la vapeur, on commence à mettre en place des machines, d'abord pour les biscuits de mer, et puis vers ces biscuits aussi, ces biscuits plaisir, là aussi, dès les années 1830. Donc c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est vraiment la première patrie du biscuit industriel.
D'abord, révolution industrielle, et puis il faut préciser aussi peut-être que l'Angleterre fut une grande nation maritime.
Absolument.
Avec donc des besoins de biscuits de mer.
Absolument, exactement. Là, il y avait cet aiguillon de nécessité de nourrir ces marins. Et puis, à partir des années 1830, donc, on a tout un tas d'entreprises qui se développent. On a, par exemple, la maison Huntley & Palmer's, qui est le grand biscuitier du 19e siècle, une maison, alors, bon, il y a eu quelques aléas, mais qui existe encore, et qui développe tout un tas de procédés, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu expliquer, finalement, toutes les phases sont désormais mécanisées avec voilà des tapis qu'on étale et puis à l'emporte-pièce, on tout ça mécanisé, des machines qui permettent de produire ces biscuits. Donc le biscuit tel qu'on le connaît, c'est vraiment aussi un fils de l'industrialisation du 19e siècle. Et en France, ça va être très rapidement importé avec. Le premier biscuitier industriel est un peu oublié aujourd'hui, même si la maison vient de renaître de ses cendres depuis quelques années, c'est la maison Olibé, c'est-à-dire que c'était du côté de Bordeaux. Évidemment, on a plus en tête Lefèvre-Utile, la maison Lu, donc là,
Nantes.
Autre port, non plus Bordeaux, mais Nantes, évidemment, avec une tradition très forte. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce soit la maison Olibé ou Lefèvre-Utile, ils ont tous les deux voyagé, les fondateurs, enfin les fils plus exactement, de ces maisons, ont voyagé en Angleterre pour s'inspirer des savoir-faire. Nantes, le vrai décollage, c'est les années 1880. Ce qui était jusqu'ici une production plutôt artisanale de la maison Lefèvre-Utile devient là, une usine se développe, ce qui est devenu le lieu unique aujourd'hui en Quai de Loire. Et vont naître le petit beurre, paille d'or aussi, c'est-à-dire des choses qui existent encore aujourd'hui et qui apparaissent dans les dernières années du 19e siècle.
Jean Romain Lefèvre fonda en 1846 sa pâtisserie artisanale qui aboutit 40 ans plus tard à Lefèvre-Utile et son fameux petit beurre à la longévité absolument incroyable.
C'est son fils en fait qui va.
C'est ça. Mmh. Et précisons d'ailleurs que pendant la Grande Guerre, les biscuiteries industrielles, pas seulement Lu, enfin Lefèvre-Utile, mais également les grandes biscuiteries de Bordeaux, de Nantes, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, durent abandonner le biscuit friandise pour le pain de guerre. Preuve que là aussi, il y a vraiment un lien entre cet aliment de nécessité et cet aliment plaisir.
Ben, on revient à cette logique de longue conservation. C'est-à-dire que c'est quand même des savoir-faire qui pouvaient toujours produire des gâteaux, des biscuits, donc qui avaient cette vertu-là.
On évoquait à l'instant avec Loïc l'industrie biscuitière outre-Manche. Eh bien justement, on va s'intéresser de près au biscuit comme compagnon indispensable du tea time. On trempe son biscuit avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Un petit peu avant Noël, la presse britannique, du Télégraphe au Daily Mail, c'était partout, s'est emparée des résultats révélés par le British Medical Journal d'une étude que cette très sérieuse publication a consacrée au potentiel de résistance du biscuit emblématique britannique au test ultime.
Et bon, on va le faire ce test.
Celui du trempage ou de la trempette, comme vous aimez bien dire, François-Régis, dans une cup of tea. Dit plus simplement, l'idée était de chercher quel est le best biscuit for dunking in the tea. Bah, elle s'y est mise, là, Déborah.
Ça, c'est bien un truc anglais.
Avec quoi, là? Avec celui que j'ai fait. Bah, oui. On y vient plus tard.
Et ça a l'air de marcher, hein. Test trempage approuvé, ouais.
On verra après. Pour mener cette étude, alors, les scientifiques n'ont rien laissé au hasard. Ils ont commencé par sélectionner 5 concurrents, disons les 5 biscuits que vous avez forcément vus si vous avez traîné dans les rayons d'un supermarché britannique. Il y avait un oat biscuit, oui. Un digestive, un shorty, et un rich tea. C'est vraiment entre, j'allais dire, c'est comme si on faisait le test en France avec une petite galette du Mont-Saint-Michel, un petit brin, un petit beurre. Bon, c'est vraiment les biscuits basiques.
Emblématiques.
Voilà. Ils ont passé en revue plusieurs critères. Leur contenu nutritionnel. Alors, en se fondant uniquement sur l'apport calorique, sans mention particulière de la teneur en sucre, donc c'est apport nutritionnel à prendre quand même avec quelques pincettes, mais bon, c'est leur critère. La capacité du biscuit d'absorption du thé, à l'aide d'une seringue de thé insérée au cœur de chaque biscuit. Le croustillant de chaque biscuit mesuré à l'aide d'un sonomètre avant, après le trempage dans le thé.
Les fous furieux.
Et le point le plus crucial, qui vaut vraiment le plus de points dans le barème, c'est le dunking break point. To dunk, c'est tremper dans un liquide, pas forcément que du thé. Et le break point, c'est donc le point de rupture.
Où ça se brise.
Une fois trempé, se pratique donc après avoir trempé le biscuit 2 secondes. On le sort du thé, on le tient entre le pouce et l'index et on compte les secondes qui s'écoulent avant que le biscuit ne s'effrite. Le vainqueur est donc celui qui obtient le temps le plus long.
On a vite envie de savoir qui
And
est le lauréat.
And the winner is les biscuits de la famille des oat biscuits. à savoir les biscuits à l'avoine ou à la farine d'avoine, de type, encore une fois, si vous connaissez les supermarchés britanniques, les Hobnobs, qui sont vraiment un biscuit industriel, fait à partir de farine d'avoine. 70 kilocalories au compteur et qui tient 29 secondes post-trempage, loin, mais très très loin devant les autres. Alors, en parlant de biscuits à base d'avoine, il y en a un qui est très cher à mon cœur et qui aurait pu concourir si seulement il avait été anglais et non suédois. C'est un petit biscuit rond et assez fin, du nom de Havreflan.
Alors là, on fait un bond de l'Angleterre à la Suède.
Vous voyez qu'on ne parle pas que de la Corse dans cette émission. Havre, c'est avoine. Flarn, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai oublié. Il contient donc des flocons d'avoine pour partie mixée, un petit peu de farine, un peu de levure, du beurre et du sucre. Beaucoup, beaucoup de sucre. Je les ai apportés, vous les goûtez. Alors, au test de la richesse calorique, il bat tous les Anglais à plat de couture, hein, ce biscuit. Reste à voir le... Comment on appelle ça? Le dunking breakpoint. Mais ça, je ne sais pas comment on dit en suédois. On trempe? On essaye?
Mais carrément. Alors, verdict,
on n'a pas de chronomètre, ils tiennent très bien. Et le goût sucré ressort encore plus, en revanche, une fois qu'il est imbibé.
C'est fâcheux.
Oui. C'est, il est plus, parce que j'ai goûté d'abord à sec et ensuite trempé dans le thé. Il fait encore plus sucré après, mais il se tient vraiment très très bien. C'est impressionnant.
Ce goût rustique de l'avoine.
Ce petit goût d'avoine, oui. Et ces biscuits, vous les connaissez si vous êtes allé dans une enseigne de fabrication de meubles bleus et jaunes suédoises.
Ah ouais,
on
les
vend au rayon épicerie, mais en version doublée avec un cœur de chocolat au centre.
Ah,
et moi,
d'accord.
Je préfère comme ça, nature. Ils sont pour tremper dans le thé,
c'est
pas mettre du chocolat.
Effectivement, qui.
Ben voilà, ouais, c'est ça, c'est le même.
Loïc, ça se passe bien le tea time?
Oui, ils sont meilleurs que ceux qu'on peut trouver dans l'enceinte de meubles, voilà. de très très loin.
Non, mais moi j'aime beaucoup.
Ah, j'adore aussi, moi. Havre flan.
Ah, Havre
flan.
Voilà, la recette de ces biscuits à base d'avoine d'origine suédoise sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Étonnant de constater d'ailleurs que l'avoine est assez peu présent, de manière générale, dans la cuisine française, et y compris dans les biscuits finalement.
Oui, parce que
là où en Angleterre, dans les pays nordiques, l'avoine est partout.
Oui, c'est sûr que historiquement,
si on regarde
les recettes de biscuits, c'est vraiment une céréale qui n'était pas utilisée. Ça, c'est
pour le gruau, quoi. C'est pour les paysans, pour les pauvres, c'est pour les chevaux aussi.
C'est pour les chevaux. Ouais.
Cher Déborah, il nous reste une poignée de minutes pour évoquer deux recettes. On commence avec un biscuit. Je ne sais pas du tout ce que vous allez évoquer. Allez, je donne ma langue au chat.
Ça, c'est effectivement le petit biscuit d'enfance aussi. Je pense qu'on l'a tous eu chez les grands-parents. Petit biscuit de forme caractéristique, légèrement brun sur les bords.
La langue de chat.
La langue de chat, qui est plutôt cassant dans les versions industrielles.
Qui ramollit vite.
Et là, d'ailleurs, j'ai fait l'erreur. Je les ai fait avant-hier et je n'avais pas retrouvé le couvercle de ma boîte. Donc, j'avais juste mis du papier film et en fait, ils ont ramolli. Mais clairement.
Ils sont quand même encore croustillants.
Ouais, ça pourrait être mieux. Donc, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est tout simple. C'est un temps pour temps. 90 grammes de beurre, 90 grammes de sucre, 90 grammes de blanc d'œuf, 90 grammes de farine. C'est on ne peut plus simple. La spécificité, et c'est ça aussi ce qui les différencie d'autres pâtes avec à peu près les mêmes proportions, c'est que le blanc d'œuf est battu en neige. Donc en fait, on mélange d'abord le beurre mou avec le sucre, on en fait une crème, on rajoute le blanc d'œuf battu en neige, et ensuite la farine en pluie, et on le façonne. Alors là, je l'ai fait de manière artisanale à la poche à douille, mais on peut tout à fait imaginer de faire un chablon, c'est-à-dire une sorte de support en carton. Enfin, vous voyez que vous découpez ou vous faites quelque chose d'un peu plus propre. Donc moi, elles sont très irrégulières, mais ça se passe plutôt bien.
Ah non, mais vos langues de chat sont surtout extraordinaires. Puis le petit contraste entre
le croustillant
de
l'extérieur
un peu épais,
et le bord.
Et le côté ourlé à l'extérieur. Et puis, on évoque juste, mais on retrouvera la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Preuve que le biscuit est vraiment universel. Les mantecaos, en un mot, la définition.
Manteca, à la base, c'est le saint doux. Donc là, c'est un gâteau originaire plutôt d'Espagne, mais qui s'est transporté en Afrique du Nord, où on l'appelle plutôt la gribia. Et en fait, on est sur un petit gâteau très sableux qui éclate en bouche et aromatisé fleur d'oranger.
Bravo, la recette à retrouver sur notre site, le petit gâteau de nos rêves chez First Edition, un formidable bouquin signé Déborah Dupont, notre libraire gourmande, avec les photos de Géraldine Mertens. La semaine prochaine, le miel, comme vous ne l'avez jamais goûté, comme on vous ne l'a jamais raconté, Justine Knapp et Alessandra Pierini seront dans les fauteuils des chroniqueuses. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.